Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Nous parlons aujourd'hui des fins d'Internet signées par notre invité du 12 avril dernier, le géographe Boris Baud. Rediffusion de l'entretien qu'il nous avait accordé aujourd'hui en version longue dans l'atelier.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Nous sommes en train de créer un monde où tous peuvent entrer sans privilège et sans être victimes de préjugés découlant du pouvoir économique, de la force militaire ou de la naissance. Nous sommes en train de créer un monde où n'importe qui, n'importe où peut exprimer ses croyances, aussi singulières qu'elles soient, sans peur d'être réduit au silence ou à la conformité. Vos concepts légaux de propriété, d'expression, d'identité, de mouvement, de contexte ne s'appliquent pas à nous. Ils sont basés sur la matière. Il n'y a pas ici de matière. Et ça, c'est considéré comme un petit peu le texte fondateur d'Internet et de l'idéologie d'Internet qui s'appelle la Déclaration d'indépendance du cyberespace de John Parry Barlow qui est page 27 dans votre livre. Et on voit très bien qu'il s'oppose fortement aux États-nations et à la construction des États, ce qui est d'ailleurs plutôt encourageant et positif, mais ce qui pose problème.
Ah ben ça pose des problèmes considérables. C'est-à-dire que c'est là que personnellement, moi, j'y vois une forme de naïveté qu'on peut décrire très simplement. C'est-à-dire que lors des Lumières, précisément, il y a eu cette émergence de la notion de contrats sociaux. Donc, selon les philosophes, l'idée, c'était de préserver la sécurité ou de préserver la propriété ou d'œuvrer à l'égalité.
Mais rappeler que la liberté s'arrête là où commence celle d'autrui.
C'est exactement ça. Et le problème, c'est que toutes ces choses sont inconciliables. On peut pas avoir liberté et sécurité. On peut pas avoir liberté et propriété. On peut pas avoir liberté et égalité. Et la politique n'est de ça. Elle naît du fait qu'on doit définir en commun les bons curseurs, je dirais, à un moment qu'est-ce qu'on souhaite. Et on ne peut pas avoir ensemble toutes ces choses-là. Et donc, ce que je trouve problématique dans cette déclaration d'indépendance du cyberespace, c'est que d'une part, on ne peut pas y vivre. Donc, je trouve que le vœu est intéressant, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos corps? Et par ailleurs, ça ne résout pas tout, parce que ça suppose une autorégulation. C'est ça qui est derrière, c'est que finalement...
Une autorégulation qui existe, d'ailleurs. On le voit sur les réseaux, où des utilisateurs vont réguler, dénoncer les comportements abusifs, etc.
Mais parlons-en aux victimes de pornographie involontaire.
Ça marche pas toujours, ça marche un petit peu, mais l'autorégulation, en tout cas, de votre point de vue, n'est pas suffisante.
Ah non, mais vraiment, absolument pas. Les problèmes de diffamation posent aussi problème. Il suffit pas un moment que dans des forums spécialisés, des gens disent que finalement c'est faux. Je veux dire, quand des choses se diffusent massivement, ou même des choses qui ont trait à la vie privée. Et derrière ça, il y a aussi un discours qui est tenu par maintenant de très grandes sociétés comme Google ou Facebook, selon lesquelles la vie privée, finalement, c'est une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Ça aussi, ça se discute. On n'est pas obligé, parce qu'on est soumis à un dispositif technique qui pousse à la transparence, d'être collectivement d'accord avec ça.
Et là, on arrive à un dilemme simple que vous énoncez ainsi. En respectant les contrats sociaux nationaux, et pour certains, en tout cas, ça vaut le coup de les respecter, Internet est partitionné selon les nations. Et là, on quitte la majuscule d'Internet.
Alors, on la quitte. Oui et non, c'est-à-dire qu'actuellement, cette étape, elle est engagée pour la propriété intellectuelle, où il y a déjà un partitionnement. Elle est engagée pour certains États qui limitent des services, comme YouTube, Twitter, c'est le cas en Chine, bien entendu, mais aussi récemment en Turquie. Le fait est que pour autant, la majuscule reste, et c'est ce qui crée que ça devient très complexe, parce qu'on a à la fois... cet Internet commun.
Donc je rappelle juste pour ceux qui n'étaient pas là dans la première partie, la majuscule c'est cette idée qu'il n'y a qu'un seul Internet,
qu'un.
Que c'est un nom propre Internet.
Exactement.
Que c'est un réseau de réseaux.
C'est un réseau de réseaux, il n'y en a qu'un. Et si on veut aller sur le site de RFI, je veux dire, il y en a où qu'on soit, il n'y en a qu'un. Et donc on y accède ou on n'y accède pas. Et ça, en fait, ça change, puisque actuellement, par exemple, Twitter va montrer des résultats différents selon les pays. La France est un des pays qui a le plus œuvré, par exemple, pour que le tag anti-juif soit régulé. Mais Twitter n'a pas voulu le faire au niveau mondial, parce que la notion de liberté d'expression n'est pas universelle. Et du coup, on ne se rend même plus compte qu'on n'accède pas à la même chose. Pour autant, on n'est pas dans, je dirais, des internets. On n'est pas encore non plus dans des intranets. Mais on voit une dynamique forte qui fait que Internet commence à se traduire par une pluralité d'expériences et un peu comme peut l'être un pays. Je veux dire, la France, on pourrait dire les France. Mais c'est les France, c'est les différentes expériences qu'on a de la France. Il y a des gens qui vivent des choses très différentes en France. Pourtant, il y a quand même la France. Et pour certaines choses, si à un moment on commet un délit relativement grave, on est soumis au même droit. Alors Internet, je crois qu'il est actuellement dans cette tension. C'est le objectif, où il est encore une unité cohérente, mais il y a de plus en plus de revendications pour intervenir jusque dans les protocoles, dans les choses les plus profondes. Pour l'instant, c'est du bricolage, pour rendre beaucoup plus efficace et pertinent le partitionnement selon les États-nations.
Le partitionnement, la censure, la surveillance, là vous faites preuve d'optimisme, mais sous votre plume vous n'étiez pas aussi optimiste, je vais vous citer. Internet permet l'émergence d'un espace politique mondial, mais celui-ci est largement à inventer. Le temps de cette invention, Internet aura probablement disparu.
Je le pense toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, le problème qu'aujourd'hui Internet a est le même que l'économie, est le même que l'environnement. C'est-à-dire que ça appelle des régulations mondiales communes, de s'entendre sur le plus important, sur ce à quoi on tient vraiment. Et manifestement, les États sont en concurrence et les États n'y parviennent pas. Et actuellement, Internet n'a pas les moyens lui-même de décider de ce qui convient pour les individus, et les États sont pas capables de s'organiser en commun pour le décider. Alors on voit une évolution, c'est pour ça qu'on a un croisement, on assiste à un croisement, c'est-à-dire une montée de la politique à l'échelle mondiale, c'est très progressif, c'est très lent, mais on voit qu'on assiste parallèlement, dans le même temps, à, au contraire, un repli local des identités, des valeurs, de la régulation, et je dirais que je trouve ça assez triste parce que on comprend bien que le monde maintenant fonctionne à l'échelle mondiale et qu'on a besoin qu'il soit régulé à cette échelle comme Internet. C'est pour ça que le problème que rencontre Internet aujourd'hui, c'est un problème beaucoup plus large. C'est le fait que c'est un espace mondial et que la politique n'est pas organisée à cette échelle.
La politique et l'économie non plus. Vous consacrez un chapitre à la notion de gratuité sur Internet, qui est une notion qu'on peut dire extrêmement coûteuse peut-être pour les utilisateurs.
Alors effectivement, c'est un point important du livre. J'essaie de montrer comment des entreprises comme Google ou Facebook se sont construites sur la gratuité, mais de façon très habile. C'est-à-dire que, comme on est dans un environnement où les ressources sont immatérielles, il y a ce qu'on appelle des économies d'échelle très très fortes. C'est-à-dire que ce qui coûte beaucoup, ce sont les premières unités. On a aussi ce qu'on appelle des effets de club très forts. Ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup d'utilisateurs. Et comme, au final, ce sont des espaces, Google et Facebook vendent de l'espace publicitaire. Et donc, eux, ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait le plus d'utilisateurs possible et donc de réduire le coût d'entrée à zéro. Et une fois qu'ils ont atteint une centralité forte, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je propose la notion d'hypercentralité, c'est-à-dire à un moment, une centralité telle qu'elle absorbe toute sa périphérie. Et c'est le principe des effets de réseau, c'est-à-dire que maintenant, même si énormément de personnes souhaiteraient quitter Facebook, ils ne peuvent pas parce que toute la force d'un réseau social, ce sont les relations sociales. Donc même une autre plateforme intéressante, plus à la mode ou autre, a beaucoup de mal à émerger parce qu'elle est vide. Et l'hypercentralité, c'est ça. Et donc la gratuité a permis de construire ça. Mais l'hypothèse que j'émets dans l'ouvrage et dans le précédent, c'est que ces entreprises ne renvoient rien de connu. On croit pour l'instant que ça renvoie du connu parce qu'elles ont atteint une taille en termes de chiffre d'affaires qui est proche de ce qu'on peut connaître. On dit, voilà, maintenant, les grandes entreprises mondiales, elles ont trait au numérique. Mais elles ont 10-15 ans.
Et on ne sait pas où elles vont.
Elles commencent à peine et pour l'instant, elles ne vivent que sensiblement de la publicité, ce qui en termes de modèle économique est relativement simple. Maintenant qu'elles ont cette centralité, elles vont avoir des systèmes de monétisation beaucoup plus divers et puissants. Et là, on va être vraiment mais confronté à des situations sans précédent.
Et des systèmes de monétisation, donc monétisation, c'est le terme qu'on utilise pour dire qu'on va gagner de l'argent, qui ont la particularité d'être un petit peu basés sur des mensonges. C'est-à-dire que vous avez cette formule, les transactions économiques ne sont pas des fins mais des moyens. C'est-à-dire où les transactions proposées, en gros, on va consommer chez elles, mais contrairement à toute l'offre ou une grande majorité de l'offre qu'on a connue jusqu'à maintenant, eh bien, on va consommer gratuitement parce que, ça c'est une formule qui a été beaucoup reprise, le produit, c'est nous. C'est nous qu'elles veulent monétiser, c'est avec nous qu'elles veulent faire de l'argent, et nous, on est un petit peu, on se sent manipulé, en fait. On se pose des questions, en tout cas, sur notre place dans ce monde.
C'est très juste la raison pour laquelle on comprend pas bien comment changent les politiques, par exemple, de confidentialité de vie privée, de traitement des données, de stockage des données, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas faites pour nous. Et maintenant, ce débat est engagé, je dirais tant mieux, mais il s'explique simplement. C'est-à-dire que dans les années 90, il a été décidé que Internet devenait privé. Donc on sortait d'une fonction publique qui était destinée à la recherche et à l'armée, et ça devenait un outil de communication privée, donc qui passe par des FAI, qui passe par des fournisseurs d'accès à Internet, qui passe par des entreprises privées de services, etc. Et depuis, en fait, au lieu de continuer une démarche de standard, en fait, de protocole ouvert, eh bien, on a laissé émerger des acteurs comme Facebook ou Twitter qui sont totalement privés et beaucoup n'en ont pas conscience. Il y a beaucoup d'utilisateurs d'Internet pour qui le mail, Facebook, Twitter, c'est un peu pareil. Le web, alors que ça n'a strictement rien à voir. Dans un cas, on a des entreprises privées qui développent leurs propres services avec leurs règles. Ils décident de ce qui convient, de ce qu'on a le droit de mettre ou pas. Dans l'autre cas, ce sont des standards décentralisés, comme le web et le mail, et ça marchait pourtant très bien. Donc la raison pour laquelle on a développé Facebook ou Twitter, c'est pas parce que c'est plus efficace, c'est simplement parce que on a laissé complètement ouvert à ce type d'initiative, tout simplement la création des espaces d'interaction d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est pas banal, hein, se dire que l'essentiel des relations sociales se passe dans des espaces privés où une entreprise décide de si on a le droit de montrer un sein nu ou pas. C'est-à-dire, par mail, personne ne décide de ce qu'on a le droit d'envoyer ou pas.
Et c'est là où c'est inquiétant, parce que nous avons réussi à construire des sociétés modernes, dynamiques, démocratiques dans une certaine limite, mais quand même, c'est parce qu'on a fait des lois, parce qu'on a beaucoup discuté, beaucoup parlé, et dans ce monde où ces entreprises sont de plus en plus puissantes et de plus en plus utiles, eh bien, les lois, ce sont les conditions générales d'utilisation qui sont décrétées de manière unilatérale et qui changent régulièrement.
Exactement.
Sans que les utilisateurs puissent donner leur avis, et s'ils le donnent, c'est par en protestant, mais pas plus. Ils ne sont pas consultés, et souvent, ils ne sont même pas respectés, en fait.
Exactement. D'autant qu'elles changent régulièrement, elles sont difficiles à comprendre. Parfois, il faut être actif pour rétablir un statut antérieur. C'est à nous-mêmes de faire une démarche. Ça n'est pas évident. Et voilà. Et donc, ce débat, il est maintenant, je pense, engagé. Mais les solutions sont pas évidentes du tout. Parce que, bien sûr, que ces conditions générales doivent de plus en plus se plier à des réglementations européennes ou américaines. Mais on voit que parfois, Google, par exemple, refuse, tout simplement, hein, ou ils font traîner, ou ils attendent des procédures en justice. Et par ailleurs, vous comprenez bien que si à un moment Google doit se plier ou Facebook doit se plier à toutes les réglementations nationales, on va assister en fait à une déconstruction totale de ce qui peut être un espace commun. Donc c'est pour ça que l'enjeu est vraiment difficile, hein. Moi, je ne prétends pas apporter de réponse à ce problème. Je pense que par contre, il faut se le poser parce que c'est un problème politique. C'est-à-dire qu'on doit vraiment décider de comment on va gérer cet éclatement d'Internet, parce que c'est aussi ce que je dis dans l'ouvrage. Internet, paradoxalement, c'est aussi le moyen de l'émergence d'une politique mondiale. C'est aussi un moyen inédit pour les individus d'échanger à l'échelle du monde, venant de cultures, d'identités très variées, mais qui se retrouvent dans des intérêts communs. Et de pouvoir très facilement, la Turquie, pourquoi les Turcs peuvent être choqués à un moment de plus avoir accès à YouTube ou à Twitter, simplement beaucoup se sont habitués à être dans un espace d'échange mondial avec des interlocuteurs qui se trouvent ailleurs. Et c'est aussi ça, un moyen de construire du politique à l'échelle du monde.
C'est un moyen ou un test, peut-être, pour voir si c'est adapté à la réalité du monde, ou si c'est réaliste, ou si Internet n'est pas finalement une utopie.
On pourrait penser qu'Internet est arrivé trop tôt, mais trop tôt peut-être pour... Où on en est dans notre capacité à accepter une altérité à l'échelle mondiale. Mais par contre, il n'est pas arrivé trop tôt face aux problèmes qu'on a. Parce que les problèmes, on les a, et on doit les régler. Je veux dire, la façon dont les États sont mis en concurrence actuellement du point de vue des transactions économiques, c'est un problème contemporain.
Les enjeux de l'écologie également.
L'écologie aussi, voilà. Donc je pense qu'Internet est là au bon moment. Par contre, on en parlait tout à l'heure, il a les mêmes problèmes. On est à un moment où on est tellement attaché à nos propres valeurs que parfois, eh bien, on se rend pas compte de ce qu'on perd à y être trop attaché.
Alors, on n'a pas pu parler de tout, il nous reste pas forcément beaucoup de temps. Je veux bien qu'on aborde cette idée, donc vous l'avez mentionné, de décentralisation, qui est en fait le principe d'Internet à son origine, un réseau décentralisé qui lui permet de résister à des attaques, etc., entre autres. À cette hypercentralité, on l'a évoqué aussi avec des grandes entreprises, Facebook, Twitter, Google, qui sont en train de recentraliser le réseau, et même le recentraliser dans un pays, les États-Unis, qui n'est pas forcément un bon élève en termes de respect de la vie privée des internautes dans le monde. Et bien évidemment, cette hypercentralité, c'est un synonyme de vulnérabilité à nouveau.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la dernière partie de l'ouvrage, c'est de montrer que Internet étant maintenant transversal, eh bien, il a ouvert énormément, en fait, je dirais, c'est une image, mais de portes sur notre vie privée, sur notre existence, sur des dépendances. Et dès lors que il est beaucoup plus vulnérable qu'il n'y paraît, eh bien, c'est aussi une fragilité, parce que cette vitesse de développement fait que on a du mal soi-même à se rendre compte de la nature de notre exposition. On a du mal à savoir quels sont les moyens si on en prend conscience, d'y répondre. Et les vulnérabilités sont maintenant assez importantes. Les exemples sont très nombreux, hein, mais de par exemple la webcam qui peut être allumée, le fait qu'on puisse perdre ses données, le fait lorsqu'on est une entreprise de ne même pas savoir si on est surveillé, parce qu'on a ça c'est quelque chose qui est pas encore très clair dans l'esprit de beaucoup de gens, mais les entreprises en ont pris conscience, tout du moins les grosses, c'est que maintenant elles ne savent même pas qu'elles sont surveillées. C'est-à-dire que la sophistication des dispositifs de surveillance fait que lorsqu'on le sait, c'est déjà pas mal. Ça ouvre quand même des questions un peu inédites, parce que l'espionnage, c'est pas nouveau. Je crois que d'ailleurs on en a pas assez parlé, je trouve, dans le débat sur Snowden, mais ce sont des pratiques très anciennes. Ce qui a changé, et ça a trait à l'hypercentralité, c'est le fait que les moyens sont simplifiés. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut assez facilement allumer le micro d'un téléphone. Avant, il fallait aller sur place, installer un dispositif, récupérer l'information. Enfin, c'est tout ça exposé beaucoup plus. Et il fallait déjà avoir une idée de qui on surveille. Voilà. Et là, il y a même un débat sur pourquoi une surveillance massive, pourquoi surveiller tout le monde. C'est vraiment un enjeu, je pense, qui a trait, comme vous dites, à l'hypercentralité. C'est-à-dire le fait que c'est décentralisé techniquement. C'est très résistant au niveau du dispositif Internet d'infrastructure globale, mais par contre, ponctuellement, chaque nœud est très fragile. C'est-à-dire notre téléphone portable, notre ordinateur, le serveur d'une entreprise. Chaque nœud, lui, par contre, est très, très exposé. Or, dans notre quotidien, ce qui compte pour nous, ce sont les nœuds. Bien sûr, l'effondrement global d'Internet serait une catastrophe.
Les nœuds, c'est nos points d'entrée. Hein.
Tous ces points d'entrée. Et d'ailleurs, la surveillance passe aussi par d'autres types de nœuds, qui sont les interconnexions de réseau. C'est là, en fait, qu'il y a des fragilités. Et donc, pour juste indépendamment, vraiment, on n'est pas obligé de parler de ce que ça représente pour, je sais pas, pour Renault, pour des Total Elfina ou autre, mais c'est le même pour notre quotidien. Je veux dire, il y a par exemple dans le journalisme, il y a une prise de conscience très importante de ce que représente cette vulnérabilité. Et actuellement, ça pose des questions de confidentialité des sources,
de protection des sources.
Voilà, et c'est pas anodin du tout. Je pense que les démocraties doivent vraiment prendre en main très sérieusement ces questions-là.
Vous terminez l'introduction de ce livre sur ces deux phrases. Puisse ce livre aider à ce qu'Internet survive aux intérêts particuliers. Puisse ce livre contribuer à ce qu'Internet reste un espace mondial pour l'humanité. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour préserver en tant qu'individu, en tant que société, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la préservation de ce réseau et de toutes les utopies ou de tout ce qu'il peut apporter en termes de liberté, parce que ça c'est incontestable.
Je crois que le plus sain serait que ça s'inscrive dans des débats politiques très larges, que c'est d'ailleurs pas à des chercheurs comme je suis de décider justement de ce qui convient et de ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut, parce que c'est vraiment politique. C'est-à-dire quand je parle de ce problème par exemple entre sécurité et vie privée, il n'y a pas de solution claire. On doit faire des sacrifices. On accepte dans certaines mesures de perdre un peu de vie privée pour de la sécurité. La question c'est dans quelle mesure, dans quelle proportion, de qui a le droit et sous quelles conditions d'accéder à nos données. On doit, je crois, aussi avoir un débat sur ce que sont ces acteurs qu'on a évoqués, Google et Facebook en particulier, quel est leur statut, pourquoi elles auraient cette possibilité d'avoir un tel accès à nos pratiques et à ce qu'on produit. Donc c'est un débat dont on a besoin. Et je crois que on va perdre pendant un temps. C'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir pendant 10-20 ans une régression assez importante et que malheureusement ce débat se fera peut-être moins facilement au niveau mondial qu'on aurait pu le souhaiter. Mais il va peut-être y avoir un petit repli, mais je crois en la dynamique le long terme. Je termine juste là-dessus, où il faut que chaque État-nation redéfinisse les opportunités que constitue Internet, ce qu'on en veut, ce qu'on n'en veut pas, et petit à petit, il va y avoir des convergences. Parce que je crois qu'il y a énormément de convergences c'est pour ça que je parle de l'humanité. Je crois qu'il y a certaines choses auxquelles on tient maintenant, et on peut s'entendre sur ces choses-là. Et puis, de limiter le plus possible les interventions nationales. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un moment où voilà, il va falloir débattre sur vraiment à quoi on tient. Voilà, qu'est-ce qui est important pour nous, et c'est comme ça seulement qu'on va pouvoir, sauver cette opportunité qui prendra d'autres formes. D'ailleurs, parce que sur cette temporalité, Internet va beaucoup changer.
La difficulté d'espérer, de souhaiter ou de vouloir organiser des débats ou même une forme de régulation, c'est que ce qu'on a pu observer depuis une dizaine d'années, c'est que souvent c'était pas très bienveillant vis-à-vis du réseau, et c'était plutôt une forme de conservatisme pour conserver des droits plus anciens. On pense à la question du droit d'auteur, ou parfois des dizaines d'années après le décès de ceux qui ont créé ou qui même ont copié une œuvre, les œuvres sont encore bloquées, ça empêche la circulation de la culture, des idées, etc. C'est un petit peu ça la difficulté, de souhaiter le débat ou de souhaiter la régulation.
Alors je dirais que c'est un exemple parfait, ce que vous venez de dire, parce que là on voit très bien comment un débat réglerait ça assez facilement. On voit bien pour la propriété intellectuelle, effectivement, à quel point les réactions ont été conservatrices, à quel point les ayants droit, les producteurs sont passés à côté d'une opportunité considérable de renouveler la façon dont circulent les œuvres audiovisuelles dans le monde. Et tout simplement parce que ça s'inscrit dans des temporalités, avec justement un droit qui était approprié à d'autres supports et qui n'était pas prêt pour cette dématérialisation. Et Sony, c'est paradoxal, avec toutes les cartes en main, et n'a pas vu à venir, l'a pas géré. Et aujourd'hui, on a vu des exemples comme Popcorn Time qui propose de façon illégale quelque chose de mieux. C'est pas seulement que c'est gratuit, c'est que c'est mieux que l'offre légale. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, actuellement, si les producteurs et les ayants droit arrivaient à s'entendre, à discuter, à avoir un vrai débat, ils perdraient pas. Et ils gagneraient beaucoup, et ils auraient une offre bien mieux que l'offre illégale. Elle serait bien mieux. Elle serait plus confortable, plus réactive, avec un catalogue. Ils ont tout. C'est eux qui l'ont, le catalogue. Et ils n'en sont pas capables, pour précisément des questions de différence de temporalité. Et vous l'avez dit, le risque, voilà, pendant un temps, c'est des replis malhabiles, mal informés. Et donc, il y a un défi qui est difficile, qui est d'une part de prendre la peine de comprendre, et puis après, d'accepter de changer. Mais pas à n'importe quel prix. C'est ça l'enjeu. Il s'agit pas de se dire, on doit absolument se caler, baisser des prix. Il faut protéger quand même la propriété. Ça fait sens. C'est quelque chose qui fait débat. On peut discuter dans quelle proportion ça fait sens, mais c'est un des moyens de la création, quand même, la propriété. Et il y a des moyens de renouveler la situation existante de façon constructive.
Et quel conseil, je sais que c'est pas votre rôle de donner des conseils, mais si on s'adresse maintenant aux utilisateurs, aux individus qui nous écoutent, soit pour qu'ils prennent conscience, soit pour qu'ils favorisent un meilleur Internet ou un meilleur avenir d'Internet, qu'est-ce que vous suggéreriez ?
C'est une question délicate, c'est de s'intéresser à Internet avec une posture aussi critique que pour le reste du monde. Je suis prudent parce que ce que je crains, c'est que le problème que rencontre Internet, c'est un problème plus général. On l'a vu lors des dernières élections municipales en France, il y a une abstention importante. Et je crois que c'est plus général, c'est une implication. C'est que ça sera peut-être plus facile pour Internet, paradoxalement, parce que on est dans un moment où il y a peut-être moins de déceptions sur un temps long, moins de renoncements. Mais l'enjeu est le même. Il faut se sentir concerné, il faut s'informer, il faut prendre la peine de comprendre. Et Internet, c'est quand même relativement complexe. C'est-à-dire que je pense que le problème qu'a l'Assemblée nationale aujourd'hui est sensiblement le même que beaucoup d'internautes, beaucoup de personnes n'ont pas le temps de considérer la complexité de cet objet.
Et dans les usages, est-ce que par exemple il faut arrêter d'utiliser Facebook, ou il faut, enfin, je sais que c'est pas ce que vous allez dire, mais est-ce qu'il y a des conseils comme ça que vous pouvez donner, ou des pratiques qui pourraient contribuer à une plus grande diversité, par exemple, et à moins de centralisation, parce que c'est un des vrais dangers de l'Internet. Est-ce qu'il y a des choses que vous appliquez vous-même ou que vous suggérez à vos élèves?
Alors, ce que je suggère, bien entendu, c'est de toujours prendre conscience de quels sont les acteurs de quoi. C'est-à-dire, voilà, Facebook, c'est quoi? Alors, à un moment, il y a Instagram. Mais Instagram, ça a été racheté par Facebook. Beaucoup ne s'en rendent pas tout à fait compte. Ils pensent qu'ils sont dans une alternative, dans une nouvelle mode. Et il y a, en tout cas, donc d'une part, cette prise de conscience, c'est-à-dire quelle est cette plateforme. Mais je crois que c'est pas suffisant, parce que beaucoup de gens s'en moquent, hein, très clairement. Donc, le problème, c'est qu'on accède actuellement à, justement, des positions très très forte de ces acteurs, par exemple, parce qu'il y a une indifférence. Finalement, beaucoup de gens se disent « c'est pas si grave si on surveille ce que je fais, c'est pas très grave si la pub est ciblée », c'est vrai. Vaut mieux une pub ciblée que non ciblée. Le problème, il est pas là. Le problème, il est de qu'est-ce que je suis en train de construire lorsque je suis sur Facebook. Est-ce que j'en aurai vraiment la maîtrise dans 5 ans? Est-ce que si à un moment je veux aller sur un autre réseau, je pourrais? Et le problème actuellement, je vais pas dire « il faut aller ailleurs », parce que ça n'a pas de sens individuellement. Et c'est tout le problème des moments comme ça de crise systémique, c'est quand il faut que tout change d'un coup. Et on a du mal, et c'est pour ça que je parlais de l'environnement ou de l'économie. C'est pareil, il faudrait que tous les États, à un moment, ensemble, c'est comme le désarmement. C'est pareil, c'est exactement ces problèmes-là, c'est très difficile de les changer, parce qu'on ne va pas dire à un État « Ah, il faut se désarmer ». Personne ne va le faire. parce que ils ont toujours peur que quelqu'un d'autre le fasse pas. Mais de même que si on quitte Facebook pour un autre réseau, puis on se retrouve un peu tout seul, on échange avec trois amis un peu militants, on abandonne. Et donc c'est pour ça qu'il faut que je crois que ça va passer plus par un débat plus général par la politique et des politiques qui vont dire à un moment, par exemple à Facebook, vous n'avez pas cette possibilité de vous approprier ces données. Il faut créer des standards, il faut que ce soit ouvert, il faut que les personnes puissent migrer très facilement, etc. Mais ça va prendre un peu de temps. Je crois qu'individuellement, il faut surtout prendre conscience qu'Internet est politique. C'est ça, si j'avais un conseil à donner, de se dire qu'il faut se poser les mêmes questions pour Internet que pour le reste de la société.
Les fins d'Internet, c'est un livre publié aux éditions FIP, FYP, dans la collection Stimulo. Infos et liens supplémentaires sur le site de l'Atelier des médias. Merci Boris Baud.
Merci.
Bonne continuation.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 347 de l'Atelier des médias, proposée par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilett Sadawi, Jamel Belayachi, Johnny Bissakonou, Simon Decreuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, libiablog.org, arablog.org et mondoblog.org. Si vous souhaitez rejoindre Mondoblog, le concours est ouvert jusqu'au 10 août, c'est-à-dire dans 8 jours. Si vous êtes un mécène, un bailleur, une fondation, une entreprise et que vous souhaitez appuyer ou sponsoriser l'Atelier des médias, n'hésitez pas à nous contacter par mail atelier@rfi.fr. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
RFI.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Bah, ça continue sur Internet.